les jardinières.
Bonjour et bienvenue chez les jardinières. Ce matin, on va parler d'un sujet qui chauffe, au sens propre hein, comme au sens figuré, la canicule. Hein, et que se passe-t-il quand le thermomètre s'emballe? Et comment aider nos plantes à mieux vivre ces épisodes de forte chaleur? Et pour cette émission, eh bien, on a décidé de ne pas seulement en parler, on se met carrément en situation, on ose l'expérience. Une jardinière reste bien au frais en studio, c'est moi, et l'autre part affronter la chaleur directement sur le terrain. C'est Mylène, parce qu'après tout, pour parler de canicule, autant la vivre un petit peu. Mylène, vous êtes au Jardin des Senteurs à Neuchâtel, bonjour.
Bonjour Noélie, oui, alors pour l'instant ça va, hein. Pendant que vous vous profitez un peu de la chaleur et de la fraîcheur, enfin plutôt de la fraîcheur du studio, cette émission nous sommes en compagnie de Rebecca Luchinger et Jordi Gonzalez, bonjour.
Bonjour Mylène, bonjour Noélie.
Et bonjour. Soyez les bienvenus chez les jardinières, on va voir ensemble comment aider nos plantes à mieux traverser ces épisodes de chaleur.
7h, 8h, les jardinières.
Alors avant de parler de canicule, on va se projeter plus loin dans les saisons. Rebecca, Jordi, est-ce qu'il est déjà le moment de penser à l'automne, au semis, peut-être même pour l'hiver?
Alors oui, on peut déjà commencer à penser à l'automne, on peut... observer le jardin, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, penser aux vivaces qu'on va vouloir planter cet automne ou le printemps suivant à la limite. On va pouvoir commencer les semis de chou kale, de scarole, de chou d'hiver, de chou bruxelles. Et puis après, il faut juste penser qu'il faut bien attendre l'automne avant la plantation des vivaces. C'est beaucoup mieux que maintenant en été, surtout que souvent elles sont déjà en fleurs et c'est pas bien de planter une plante qui est déjà en fleurs.
Merci Jordi, nous sommes en direct du studio et du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. On va parler canicule dans la suite des jardinières.
Et n'oubliez pas de nous envoyer vos questions jardinage. Nos invités prendront le temps d'y répondre en seconde partie d'émission. Vous pouvez remplir le formulaire présent sur notre site. Vous pouvez même joindre une photo à votre question ou alors nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, laissez un espace suivi de votre question, de votre nom que vous nous envoyez au 939. On s'occupe de vos plantes dans quelques instants.
7h, 8h, les jardinières.
Jusqu'à 8h, nous sommes entre jardin et studio. Mylène, vous êtes au Jardin des Senteurs pour comprendre comment les plantes vivent ces épisodes de chaleur et surtout comment les aider à les traverser.
Exactement, en compagnie de Rebecca et Jordi. Depuis plusieurs jours, la canicule s'est installée. Qu'est-ce qui se passe pour une plante durant cette période? Comment ça va ici au jardin?
Alors, comme pour nous, hein, les plantes sont un peu en souffrance avec ce chaud. Et on peut l'observer avec différentes... Enfin, il y a différentes conséquences visibles qu'on peut observer, comme par exemple le flétrissement des feuilles, le jaunissement des feuilles, et ensuite le dessèchement et la mort de la plante. Non, alors on essaye de pas arriver jusqu'à là, mais c'est des choses qu'on peut observer. Et cette souffrance est due à différents stress, donc on parle souvent de stress hydrique et de stress thermique. Donc le stress hydrique, c'est quand la plante perd plus d'eau par évaporation et par transpiration qu'elle ne peut en absorber par ses racines. Et ce manque d'eau va venir perturber son fonctionnement normal, va ralentir sa croissance et peut même réduire sa production. Et ensuite, le stress thermique, c'est quand la plante... va apparaître chez la plante lorsque les températures sont trop élevées ou trop basses, donc par rapport à ce que la plante peut supporter. Donc comme le stress hydrique, ça va perturber son fonctionnement, ralentir sa croissance et aussi réduire sa production. C'est vraiment la même chose que le stress hydrique. Donc ce stress dû à la chaleur va se produire quand la température va dépasser le seuil de tolérance de la plante, qui est souvent au-dessus de 30 degrés pour la plupart des végétaux. Et pour limiter la perte d'eau, la plante va venir fermer ses stomates, donc c'est les petits pores qui sont présents sur les feuilles, qui lui permettent de respirer et de faire les différents échanges gazeux avec son environnement. Et du coup, s'il y a un problème dans cette respiration et ces échanges, ça va diminuer la photosynthèse et puis son fonctionnement normal. Donc peut-être pour vous donner un exemple un peu plus concret, si on prend la tomate par exemple, à partir de 30-32 degrés, le stress thermique va commencer et la photosynthèse diminuer, puis la croissance va ralentir. À partir de 35 degrés, la floraison et la nouaison, donc la production des fruits, va fortement être perturbée. Et entre 35 et 38 degrés, là, le pollen va devenir de moins en moins fertile, ce qui va rendre la fécondation plus difficile et peut venir réduire les récoltes. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces deux stress ne sont pas forcément corrélés. Ça veut dire que si on voit qu'une plante est en stress et qu'on se dit « Ah, elle a soif, je vais venir l'arroser », ça ne va pas forcément la sauver, parce que s'il y a 40 degrés qui tapent dessus, ça va vraiment venir affecter la partie végétative de la plante. Et même si elle a assez d'eau, elle va quand même subir ce stress thermique.
Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour protéger vos plantes dans votre jardin ?
Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrose surtout le matin. Et ça, c'est principalement pour réduire les pertes d'eau, parce que le matin, les températures sont plus fraîches et le soleil est moins intense. Donc l'eau va s'évaporer moins vite et va mieux pénétrer dans le sol. Ensuite, il y a une meilleure absorption de l'eau par les racines le matin, parce que la plante va être hydratée avant les grosses chaleurs et donc résister mieux aux différents stress thermiques. Alors que si on arrose le soir, la plante aura potentiellement eu soif toute la journée, du coup va être dans un état plus fragile et ça va aussi lui demander plus d'énergie d'absorber l'eau. D'arroser le matin, ça permet aussi une certaine limitation des maladies, parce que si les feuilles sont mouillées, elles vont sécher plus rapidement avec la chaleur de la journée, ce qui réduit le risque du développement des champignons et d'autres maladies qui aiment beaucoup l'humidité sur les feuilles. Comme dit avant, d'arroser le matin, ça prépare la plante aux fortes chaleurs. La plante va bien s'hydrater dès le début de la journée pour mieux supporter les températures élevées et maintenir ses fonctions physiologiques comme la photosynthèse. La photosynthèse. Ensuite, on essaye d'arroser beaucoup et moins régulièrement, ce qui va permettre un enracinement plus profond. Et la plante va du coup pouvoir se protéger durant l'été si elle a des racines qui vont vraiment en profondeur, où il y aura l'humidité qui sera conservée plus longtemps. Une autre chose qu'on peut faire, c'est pailler le sol. Donc on met à peu près 5 à 10 cm pour des cultures de légumes et 10 à 15 pour des arbres ou des plantes vivaces. Puis ce paillage, ça peut être du foin, ça peut être de la paille, ça peut être des feuilles mortes ou des déchets de tonte comme des déchets du gazon. Mais il faut vraiment que ce gazon soit sec et pas, faut pas le mettre humide parce que sinon il va commencer à se composter et à dégager de la chaleur. Donc ça va juste venir réchauffer le sol, on veut pas trop ça. Ou on peut mettre aussi du broyat de bois. Donc ça va garder le sol humide et un peu plus frais. Et une des dernières choses qu'on peut faire, c'est ombrer les plantes. Donc nous, au jardin, on a des clés ombrantes. Donc des canisses en bois qu'on vient recouvrir les couches avec ça. Sinon, dans un jardin, on pourrait mettre un parasol ou tirer une toile. Je sais que c'est pas forcément possible de faire ça partout, mais vraiment venir ombrer, c'est ce qui marche le mieux, quoi.
Les jardinières.
7h22 chez Les Jardinières, émission un peu spéciale ce matin, puisque Mylène est en direct du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Et vous vous promenez dans les allées, Mylène ?
Oui, exactement. Je regarde les plantes, comment elles se portent. On voit des tomates, des courgettes, des herbes aromatiques. Je leur dis, est-ce que la canicule, elle peut mettre certaines cultures en danger cette année ?
Oui, et quasiment toutes les cultures. Hein. Comme disait Rebecca avant, la plupart des plantes au-dessus de 30 degrés, elles vont quand même beaucoup moins supporter la chaleur. On aurait par exemple la salade qui au-dessus de 30 degrés, elle va commencer par monter en graines beaucoup plus rapidement. Elle peut avoir des brûlures après, en dessus de 32-33 degrés. La coriandre à partir de 25 degrés, elle monte en graines. Après on aurait les piments poivrons qui eux vont aller jusqu'à 35 degrés sans trop de problèmes. Et à partir de ça, il y aura une chute des fleurs, une mauvaise fécondation et du coup une baisse du rendement. Faut aussi savoir que les insectes, ils sont très affectés par ces fortes chaleurs. Déjà, ils manquent d'eau, ensuite ça les désoriente. Et puis, comme nous, en fait, ça réduit leur activité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'après-midi, on n'est pas très bien. En général, on fonctionne un petit peu au ralenti. C'est pareil pour les insectes. Du coup, évidemment, il y a moins de pollinisation, ce qui peut beaucoup affecter les cultures.
Jordi, on a souvent parlé du paillage ou du binage pour préserver par exemple l'humidité du sol. Est-ce qu'on peut encore pailler les cultures ou alors c'est trop tard ?
Alors c'est jamais trop tard pour pailler les cultures, même si la culture elle est morte, mais ça c'est dans le cas le pire, ça va quand même protéger le sol et les micro-organismes qui sont contenus dans le sol et qui sont vraiment très utiles à la croissance et à la santé des plantes.
Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de comment ça se passe ici au jardin. On pense souvent à ces plantes en extérieur qui subissent le chaud. On va voir aussi comment ça se passe à l'intérieur, parce qu'on on pense moins à ces plantes, à nos plantes vertes, comme on les appelle. Parce qu'ici, on voit, hein, elles doivent faire avec le soleil, la chaleur, la sécheresse. Noélie, vous êtes en studio, comme une plante d'intérieur, mais vous subissez quand même la chaleur, mais d'une autre manière.
Les jardinières.
Depuis 7 heures, nous sommes avec Rebecca Luchinger et Jordi Gonzalez. On parle aujourd'hui de la canicule et de ses effets sur nos plantes au jardin comme à la maison. Mylène est en direct du Jardin des Senteurs à La Coudre à Neuchâtel et moi je suis en studio pour vous accompagner tout au long de cette émission. On va continuer notre discussion sur la canicule et bien sûr répondre aux questions de nos auditeurs.
Et pour les poser, rendez-vous sur notre site, vous remplissez le formulaire et vous pouvez même joindre une photo à votre question. Vous pouvez aussi nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, de votre nom et vous envoyez tout ça au 939.
Alors on le voit bien, les plantes d'extérieur doivent composer avec le soleil, la chaleur et la sécheresse. Mais les plantes d'intérieur aussi subissent cette forte chaleur, mais d'une autre manière.
Oui, on a tendance à penser que ces plantes sont protégées dans nos maisons. Jordi, Rebecca, comment nos plantes d'intérieur, elles vivent ces périodes de canicule ?
Alors, au final, elles vivent un peu ces périodes de canicule comme nous. Donc, il fait chaud à l'intérieur des appartements. Maintenant, une plante qui va être exposée au soleil derrière une fenêtre va avoir plus de mal qu'une qui est plutôt un côté qui est à l'ombre. On va parler de nouveau de stress thermique. Il peut y avoir des jaunissements des feuilles et des brûlures. La fenêtre, elle fait un effet loupe, donc elle pourrait aussi brûler les feuilles à cause de cet effet loupe. Et après, quelque chose qu'il faut absolument garder en tête, c'est que si on met une climatisation ou si on a un ventilateur, ces plantes qui viennent des régions du sud, on va dire des régions tropicales, elles n'aiment pas du tout les courants d'air et surtout pas les courants froids. Et ensuite, la climatisation, elle a tendance à dessécher l'air, donc ça va créer un environnement que ces plantes plutôt tropicales qui aiment l'humidité ne vont pas trop aimer. Donc elle va compenser en transpirant, elle va dégager beaucoup d'eau, ce qui peut faire un stress hydrique et du coup il faudra l'arroser en conséquence. Sinon, ça reste quand même des plantes qui viennent vraiment du sud, comme je l'ai dit, donc normalement la chaleur c'est pas non plus un immense problème.
Alors en période justement de forte chaleur, on conseille souvent de fermer par exemple les stores comme dans nos studios, les volets, les rideaux pour garder un peu de fraîcheur. Mais est-ce que ça pose concrètement un problème pour les plantes qui ont besoin par exemple de lumière ?
Alors oui, si les stores ils sont fermés non-stop pendant un mois et demi, ça pourrait poser problème, ce qui n'est forcément pas le cas parce que la canicule va se terminer gentiment, on va pouvoir réouvrir les stores. Et ensuite, on ouvre quand même les stores le matin et soir, donc la plante elle a quand même un petit peu le temps de faire la photosynthèse et d'avoir la croissance plus ou moins normale. Ça dure en plus pas trop longtemps, donc ça va. Si ça venait à durer très très longtemps, il pourrait y avoir un risque d'étiolement. Donc c'est vraiment quand la plante va chercher le soleil, du coup elle va avoir les entre-nœuds qui ont tendance à être beaucoup plus grands et elle va un petit peu blanchir, jaunir, ce qui n'est pas très joli et puis ça peut lui poser un petit peu des problèmes. Ensuite on a l'exemple des cactus et des plantes succulentes qui ont des besoins qui sont beaucoup plus élevés en lumière. Donc eux ce seraient peut-être les premiers à avoir des problèmes quand on ferme les stores. Mais ils vont garder peut-être des taches sur les feuilles ou des choses comme ça pendant quelques semaines et après, normalement, ça devrait disparaître.
Finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui compte vraiment pour garder ces plantes d'intérieur en forme pendant les périodes de canicule ?
Alors, comme j'ai dit, ces plantes, elles viennent de climats souvent tropicaux, donc elles craignent vraiment pas trop la chaleur. C'est pas comme les radis dans le jardin ou les épinards qui, eux, avec des chaleurs comme ça, ça va pas aller. On peut prendre l'exemple de la Monstera, elle vient des forêts tropicales humides d'Amérique centrale. On va souvent avoir des températures qui tournent autour des 30-35 degrés, donc c'est pas vraiment un souci. Ce qu'il faut vraiment bien penser, c'est suivre avec l'arrosage. On peut humidifier avec un brumisateur, ça c'est encore le plus idéal. Ça nous fait aussi du bien à nous parce que ça augmente un petit peu l'humidité, donc ça descend la température de l'appartement. Et puis, il faudrait éviter de les mettre derrière une fenêtre en plein soleil à cause de ces risques de brûlure. Après, faut savoir qu'elles fonctionnent quand même un tout petit peu comme nous. Donc, si vous sentez des inconforts importants qui sont dus à la chaleur, vous avez l'impression d'être en train de suffoquer, et ben vos plantes, elles vont ressentir la même chose.
Même question alors, mais pour le potager, cette fois-ci, quels sont les points importants à se souvenir durant cette canicule ?
Alors, comme on en a déjà parlé avant, quelque chose de très important, ce serait d'arroser le matin afin de maximiser l'hydratation des plantes, à faire des arrosages plutôt généreux, mais moins souvent. Donc, par exemple, les tomates, venir les arroser tous les 3 jours, mais vraiment les arroser en conséquence. Si on peut ombrer les cultures qui sont sensibles, comme par exemple les salades, avec un parasol ou une toile d'ombrage, c'est toujours bien. Ça permet de leur donner un peu de fraîcheur, et ce qui va éviter qu'elles montent en graines trop rapidement. Et autre point vraiment très important, c'est le paillage. C'est vraiment important de ne pas laisser le sol nu. Donc ce paillage peut être fait avec de la paille, du foin, des feuilles mortes ou des déchets de tonte secs. Donc sec parce que si on met du gazon humide en paillage, il va commencer à se composter et puis à vraiment dégager de la chaleur. Donc ça, c'est pas top top. Et sinon on peut aussi utiliser du BRF, donc c'est du broyat de bois. Et ce paillage va vraiment limiter l'évaporation et garder le sol le plus frais possible.
Vous avez parlé de paillage, qui est une bonne technique pour garder l'humidité. Mais du coup, quand on arrose sur le paillage, sous le paillage ? Où ?
Alors, on arrose plutôt sur le paillage. Si on peut éviter d'arroser la végétation, c'est bien. Comme ça, il n'y a pas trop d'humidité sur la plante et il y aura moins de développement de maladies comme des champignons. Donc vraiment arroser sous le paillage, c'est un petit peu compliqué vu qu'il est vraiment posé sur le sol, mais par-dessus c'est très bien.
7h, 8h, les jardinières.
7h45 chez les jardinières qui sont parties en extérieur, en tout cas Mylène hein, qui se trouve au jardin des Senteurs à Neuchâtel. Vous êtes avec Jordi Gonzalez et Rebecca Luchinger.
Exactement, on profite encore un petit peu de la fraîcheur matinale, il y a les oiseaux qui chantent, enfin, on vend un peu du rêve. Hein. Si vous avez envie de sortir, faites-le maintenant, après ça sera trop tard, il fera trop chaud. On va prendre le temps de répondre aux questions de nos auditeurs, des questions qu'on attend bien sûr via le formulaire disponible sur notre site avec la possibilité de joindre une photo ou alors en nous envoyant un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question, votre nom, vous nous envoyez tout ça au 939.
Et on a reçu une question via les formulaires justement sur notre site avec une photo. Alors on voit un lys et sur ce lys, un petit insecte. Et notre auditrice voulait savoir de quoi il s'agissait. L'insecte alors, ou la plante, hein, les deux certainement.
Alors la plante c'est un lys, ça se voit aussi, elle a même joint une photo de fleurs, ce qui est pas mal. L'insecte, on voit que c'est un petit scarabée rouge avec des pattes noires comme ça. Alors il s'agit du cryocère du lys, c'est un petit coléoptère qui est spécialisé dans le lys, donc qui va pondre ses œufs sur le lys. Les larves vont commencer à manger les œufs, elles ont une petite particularité, c'est qu'elles s'enterrent sous leurs excréments pour se protéger de leurs prédateurs. Et puis la larve, une fois adulte, va devenir ce scarabée et donc elle va s'attaquer au lys. Le meilleur moyen de s'en débarrasser, ça reste de les enlever à la main avant qu'ils aient le temps de pondre. Je crois que ça va arriver dans quelques semaines. Et puis d'en faire ce qu'on veut après, mais de les mettre ailleurs en tout cas.
Mais si on vire les lys, il n'y en aura plus.
Alors sans lys, normalement il n'y a plus le cryocère du lys.
Ben voilà. On va parler des fraises, Jordi, Rebecca. Bah oui, la saison, elle touche gentiment à sa fin. Et on se demande de que faire du plant de fraises quand la récolte est finie.
Alors, le plant de fraises, on va le laisser en place. Souvent, il est planté en pleine terre ou bien dans des jardinières. C'est censé durer 3-4 ans, un plant de fraises. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est le nourrir un petit peu. Ensuite, on va pouvoir... faut bien continuer à l'arroser. C'est pas parce que la récolte est finie qu'il demande plus d'eau, évidemment. Et puis, là, il va commencer à stolonner notre plant de fraises. Donc, c'est-à-dire qu'il va créer des tiges avec des bébés fraisiers au bout de ces tiges. On peut, faut attendre encore un petit peu, mais on pourra couper ces tiges et aller replanter ces petits bébés fraisiers où on a eu de la casse ou bien où on n'a par exemple pas encore de fraises. pour les multiplier.
Merci Jordi. On va parler des orages hein, qu'on attend avec impatience. Ils devraient arriver parfois en fin de journée, en journée. Alors est-ce qu'il faut quand même arroser ou alors est-ce que cette pluie suffira ?
Alors ça va vraiment dépendre de la quantité de pluie qui va tomber. Parce que souvent avec ces orages, ils sont très brefs. On a l'impression qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée. Mais en fait, s'il y a moins de 10 mm, donc... C'est pas suffisant et il faut quand même venir arroser le jardin.
On va revenir à la chaleur avec les abeilles et les bourdons qui ont certainement soif. Est-ce qu'on peut les aider dans notre jardin à supporter cette canicule ?
Mais oui.
Un mini bar ?
Mais oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est très important. On parle souvent des oiseaux, de donner de l'eau aux oiseaux, mais on oublie beaucoup les insectes. Et en fait, c'est très facile de leur donner à boire. On peut mettre des petites coupelles avec de l'eau qu'on va venir changer tous les 2-3 jours pour pas qu'il y ait des larves de moustiques qui s'installent. Et ce qu'il faut, donc faut pas que la coupelle soit trop profonde, il faut bien mettre soit des cailloux, soit un bout de bois flottant afin que les insectes qui se posent sur l'eau puissent en ressortir.
On a une question d'une auditrice qui nous indique que ces salades montent en graines super vite. Alors est-ce qu'il y a des variétés peut-être qui résistent mieux au chaud que d'autres ?
Oui, on a des variétés de salades qui vont un petit peu moins monter en graines. On peut parler des laitues romaines qui sont beaucoup plus adaptées à la chaleur. Ben, elles viennent de Rome. Du coup, il fait quand même un petit peu plus chaud qu'ici. Après, maintenant, pour nos laitues qu'on a l'habitude d'avoir, donc feuilles de chêne et pommiers, on peut aussi les planter à l'ombre d'un arbre, ce qui va garder une température aussi plus basse et qui va éviter la montaison en fleurs un petit peu plus que si elles sont en plein soleil, en plein cagnard. Il y aurait juste la feuille de chêne qui est peut-être un petit peu plus adaptée à la chaleur que la bête salade pommée.
7h, 8h, les jardinières.
On arrive déjà au terme de notre émission. Et Mylène, il est l'heure pour vous de ranger le matériel et de rejoindre les studios puisque vous étiez en direct du Jardin des Senteurs. Ce matin, nous avons parlé de canicule et de ses conséquences sur nos végétaux.
Mais avant de partir, Rebecca, Jordi, pour terminer, on va conclure avec cette question. Si les canicules deviennent de plus en plus fréquentes, il va falloir repenser nos jardins sur le long terme. Quel arbre vous conseilleriez de planter aujourd'hui pour des jardins plus résistants à la chaleur et capables de mieux supporter ces étés de plus en plus extrêmes, des arbres qui font de l'ombre ?
Alors on peut déjà peut-être parler de ceux à absolument éviter. Ce serait l'épicéa, le bouleau. On le voit maintenant, les bouleaux qui sont même au bord du lac, qui sont en train de perdre leur feuilles, c'est assez terrible. Le hêtre, c'est pas une bonne idée non plus. Et puis après, pour les arbres qui sont beaucoup plus acclimatés, on va dire, il y aurait le chêne pubescent qui est bien, même à la sécheresse. Il y a la lisier blanc, l'érable champêtre, le cormier, le chêne cécile. Et tous ces arbres-là, c'est des arbres qui sont adaptés à nos climats et qui viennent d'Europe en plus de ça.
Jordi Gonzalez et Rebecca Luchinger, vous êtes les propriétaires du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci de nous avoir accueillis dans votre jardin durant une heure. Bonnes vacances et à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
On se retrouve samedi prochain pour la DER des jardinières avant la pause estivale. Et nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Porrentruy.
D'ici là, prenez soin de vous et cherchez l'ombre. Bon week-end, Mylène.
Merci beaucoup Noélie, bon week-end à vous.
7h, 8h, les jardinières.